Chapitre 18. Enfin, le mercredi arriva. Avant 7 heures, elle était prête pour partir à la messe, ayant presque l'espérance de l'y voir. Mais cette espérance fut déçue. Elle ne l'aperçut ni dans l'église, ni devant la maison de Guillaume depuis Laurence. Et ce fut une inquiétude qui s'ajouta à l'impatience qui, depuis 3 jours, l'enfiévrait. Était-ce par prudence ? Était-ce parce que Sylvie n'avait pas encore été jouée, ou bien parce qu'elle n'avait pas réussi? Mais quand cette pensée se présentait à son esprit, elle la repoussait aussitôt, comme si ce doute avait été un crime. Il n'était pas venu parce qu'il n'avait pas cru devoir venir, et certainement les raisons qu'il avait retenues étaient excellentes. À 1 heure, il serait dans la prairie. À 12h30, elle put quitter sa tente et courir au bois de Magnolia. Il n'était pas encore arrivé. Quoiqu'il ne fût pas l'heure, elle reçut un coup, en ne le voyant pas, à la place où elle l'avait aperçu la première fois, et dans sa confiance qu'il devait être là, elle vint jusqu'à la rivière, se disant qu'il était au bas du talus. Il n'y avait personne. Mais, à courte distance, de l'autre côté, dans une touffe de roseaux, un gamin pêchait à la ligne. Elle l'avait déjà vu là plusieurs fois. Elle ne le connaissait pas. Elle s'assit et attendit, sans se préoccuper de ce gamin. C'était bien à lui qu'elle pouvait penser vraiment. Elle était là depuis 5 minutes à peine, l'oreille tendue, les yeux fixés sur la prairie, quand elle le vit apparaître. Elle se leva, mais il l'avait vue et, de la main, il lui avait fait un signe sur la signification duquel elle ne se méprit pas. Ce n'était pas seulement le bonheur de la voir qu'il y avait dans cet élan, mais encore une joie complète. En quelques secondes, il fut près d'elle. « Un triomphe ! » s'écria-t-elle avant qu'il fût arrivé. « Un succès, » dit-il. « Un grand, un très franc succès ?»« Très franc. » « Oh, que je suis fière !»« Et moi, que je suis heureux, puisque je vais être votre mari. » « Mon père était à vos premières. » J'ai eu la chance de pouvoir lui offrir 2 belles loges. Il a été un peu froid d'abord, mais au 4e acte de Châtelard, il a commencé à applaudir, et à Sylvie, il a applaudi tout le temps. Il a été même jusqu'à m'embrasser en public. Et maman ? Oh, heureuse comme vous ! Vous m'avez apporté les journaux ? Votre maman a dû vous les envoyer. Que disent-ils ? Vous savez ce qu'est le succès au théâtre, une folie contagieuse. Ils sont tous partis pour la gloire. Pouvez-vous plaisanter ? Voulez-vous que je me laisse affoler aussi ? Si je suis heureux de cette unanimité dans l'applaudissement, c'est pour vous, c'est parce qu'elle va forcer, je l'espère, les défenses qui s'opposaient à notre mariage. Oh, assurément, j'ai déjà préparé ma tante avec la dépêche de dimanche. Et qu'a-t-elle dit ? Elle n'est guère bien disposée en faveur d'un journaliste et d'un homme de théâtre. Mais Sylvie va achever ce que Châtelard a commencé. Comptez sur moi. Ma tante m'aime trop tendrement pour ne pas me vouloir heureuse. Pour vous, pendant que j'agirai ici, obtenez le consentement de mon père et dans 2 mois, je serai votre femme car ma tante veut me marier tout de suite. » Elle parlait en le regardant, penchée vers lui, tandis qu'il se haussait vers elle. Comme elle lui disait ces derniers mots, elle eut la sensation qu'on marchait au loin dans la prairie en face, et, instinctivement, elle leva les yeux. C'était Adélaïde qui arrivait, suivie du gamin occupé à pêcher quelques instants auparavant. Geneviève n'eut pas besoin de réfléchir pour comprendre la situation. Adélaïde avait posté là ce gamin depuis plusieurs jours, et celui-ci avait été la prévenir. « Nous sommes surpris, » dit-elle à mi-voix. « Voici la femme de chambre de ma tante qui nous espionne. Elle arrive. »« Que voulez-vous que je fasse ?»«
Je ne sais pas. »«
Pourquoi nous cacher ?»«
Parce que je voudrais prendre les devants auprès de ma tante. »«
Est-ce le bon moyen ?»«
Je le crois. »«
Comme toujours, je ferai ce que vous voudrez. » Il parlait à voix précipitée, mais Adélaïde arrivait. « Partez, » dit-elle résolument, « retournez à Paris, décidez mon père. C'est à moi de nous défendre ici. Vous ne pouvez rien sur ma tante qui ne vous connaît pas. » Adélaïde n'était plus qu'à quelques pas de la rivière.
Faré s'éloigna lentement, suivant le chemin par où il était venu. Geneviève n'attendit pas qu'Adélaïde lui parlât. Elle rentra sous les magnolias et là, s'arrêtant appuyée à un arbre, car elle était tremblante, elle se demanda ce qu'elle devait faire. Certainement, ce n'était pas pour le plaisir de la surprendre qu'Adélaïde avait placé cet enfant en embuscade. Elle avait une intention, la dénoncer à sa tante et exciter celle-ci contre elle. Devait-elle attendre cela et paraître en coupable qui se défend ou qui nie? Ni l'un ni l'autre de ses rôles ne pouvait lui convenir. Nier, elle ne descendrait pas à un pareil moyen. Se défendre, elle ne se sentait pas coupable. Quel mal avait-elle fait? Ils s'aimaient, ils voulaient s'épouser, ils avaient le consentement de leur mère. On ne se défend pas quand on est dans ces conditions. Sa résolution fut prise. Elle se dirigea vers le château où elle devancerait assurément Adélaïde, obligée de faire un détour. Au moment de mettre la main sur le bouton de la porte du salon, elle s'arrêta, émue à la pensée de la responsabilité qu'elle prenait et du chagrin qu'elle allait causer à sa tante. Mais son amour la fermit. Elle entra. « Tu reviens déjà ?» dit mademoiselle de Puylaurens qui n'avait pas quitté son fauteuil. Comme elle ne répondait pas, sa tante la regarda et la vit pâle, les lèvres frémissantes. « Qu'as-tu, mon enfant ?»« Une chose très grave, ma tante, la plus grave de ma vie. Je viens de voir M. Faré. »« Où donc ?»« Au bord de la rivière. »« Comment cela ?» Elle hésita un moment, le cœur serré, puis se décidant. « Ma tante, je dois vous avouer que, quand je suis venue chez vous, j'étais fiancée à M. Faré. »« Fiancée ? Comment fiancée ? Par qui ?»« Par ma mère, par sa mère. »« Et ton père ?»« Nous attendions pour lui parler de notre amour, comme j'attendais pour vous en parler à vous-même, que ces pièces eussent été jouées et qu'il eût une situation. » Sylvie, sa seconde pièce, vient d'obtenir un succès égal à celui qu'a obtenu Châtelard. Il est acclamé par tous et par ce double début, il s'est placé parmi les maîtres du théâtre. C'est pour m'annoncer ce succès qu'il est venu. Et c'est pour me demander à mon père qu'il retourne tout de suite à Paris. Mademoiselle de Puylaurens était stupéfaite et indignée, tellement abasourdie qu'elle ne comprenait pas. « Tu savais donc qu'il devait venir ? » demanda-t-elle. Il est déjà venu il y a 15 jours. C'est lui qui t'a fait refuser M. de Javerlac ?
Oui.
Comme les personnes qui sont jetées hors d'elles-mêmes, mademoiselle de Puylaurens allait d'une idée à l'autre. Mais ta mère, demanda-t-elle, comment ta mère a-t-elle accepté ce mariage ? Elle l'a accepté quand elle a vu notre amour. Elle n'a donc pas conscience de votre rang ? Mon rang, c'était d'être premier prix du conservatoire et de gagner quelque argent en jouant dans les salons. Il me semble qu'il n'était pas supérieur à celui de M. Faré. Puis, sentant qu'elle venait de se placer sur un terrain favorable, elle continua avec plus d'assurance. Et si j'étais restée ce que j'étais alors, si je n'étais pas venue ici, si j'étais toujours la petite pianiste de Montmartre, le rang de M. Faré serait aujourd'hui bien au-dessus du mien. Mademoiselle de Puylaurens était trop raisonnable et trop juste pour n'être pas touchée de cet argument qui portait. Il était certain que celle que ce Faré avait aimée, ce n'était pas l'héritière de la fortune des Puylaurens, c'était la petite pianiste, et si cette pauvre pianiste avait su qu'elle hériterait un jour de cette fortune, sans doute elle aurait eu conscience de son rang. N'avait-elle pas elle-même une part de responsabilité dans cette situation ? Mais cette idée de mariage la blessait trop dans ses principes et dans ses espérances pour qu'elle se rendît. « Je ne sais pas, dit-elle, ce que ton père répondra à M. Faré, mais pour moi, je n'accepterai jamais ce mariage. »« Oh, ma tante !» Mais mademoiselle de Puylaurens lui coupa la parole. « N'essaie pas de me fléchir, mon enfant. Cela amènerait entre nous une lutte pénible qui n'aboutirait à rien. » Tu me connais assez et tu es assez intelligente pour comprendre que tout en moi proteste contre un pareil mariage. Mes croyances de chrétienne, ma naissance, mon éducation, mes idées, ma juste ambition pour toi et aussi ma prévoyance, mon expérience de la vie. Ce jeune homme peut avoir tous les mérites dont ton enthousiasme le pare, mais il a contre lui une chose terrible. Son origine. Il est fils d'une muette et cette infirmité peut passer à ses enfants.
Mais Madame Farré n'est pas née muette.
Il suffit. Je demande à son affection de ne pas insister. Tu m'as fait beaucoup de peine et je ne suis pas en état de supporter une discussion. Comme Geneviève sortait, elle rencontra Adélaïde qui semblait attendre le moment d'entrer dans le salon.
« Ce n'est pas la peine que vous dérangiez ma tante, dit-elle. Ce que vous vouliez lui rapporter, je viens de le lui apprendre. »